Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire de cette édition, la canicule se poursuit sur la quasi-totalité de la France avec 80 départements placés en vigilance orange jusqu'à demain. Les incendies qui se sont déclenchés sur le littoral du Pas-de-Calais ne sont pas encore fixés et 230 pompiers sont actuellement mobilisés sur le terrain. En football, c'est une fin de parcours pour le Maroc et l'Algérie. À la CAN féminine, les Algériennes se sont inclinées face au Malawi et le Maroc, pays hôte, a été éliminé par le Cameroun au tir au but. En France, les chaleurs extrêmes sont de retour. Plus de 135 millions de personnes en Europe, essentiellement dans le pays, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, devraient connaître des températures supérieures à 35 degrés à un moment de la journée aujourd'hui. Avec elles vont ressurgir les questionnements autour de la réponse politique apportée à ces événements à répétition. Les précisions avec vous, Inès Gilles.
Et oui, la canicule se poursuit jeudi sur la quasi-totalité de la France avec 80 départements placés en vigilance orange jusqu'à vendredi. C'est la poursuite et l'amplification d'une vague de chaleur entamée le 28 juillet. Alors, les épisodes de chaleur se succèdent depuis fin mai. En même temps que les recommandations des autorités publiques, le gouvernement l'a rappelé, il faut boire de l'eau, éviter les activités sportives, prendre soin des plus vulnérables, les personnes âgées et les enfants. Mais la question de l'accès à un logement sûr est peu abordée. C'est nos consoeurs Camille Stromboni et Mattea Battaglia qui l'affirment dans le journal Le Monde. Être seul ou entouré ou avoir accès à un lieu rafraîchi quelques heures par jour sont des mesures utiles, mais elles ne changent pas fondamentalement la donne, affirme-t-elle, ajoutant que si une personne vulnérable temporairement mise à l'abri doit retourner vivre dans un lieu où la température reste à 33 degrés, à terme, le décès surviendra tout autant. Le risque de déshydratation contre lequel les autorités n'ont cessé de mettre en garde ne peut non plus faire oublier celui de l'hyperthermie quand la température corporelle dépasse 41 degrés. Bien plus complexe à empêcher. En juin, 6000 décès ont été recensés par Santé publique France, dont la moitié du 25 au 27 juin, soit les journées parmi les plus chaudes jamais enregistrées en France. Le phénomène de chaleur extrême pose aussi la question de l'accès à l'eau, un sujet dont le gouvernement s'empare aujourd'hui. Selon la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, presque tout le territoire français est frappé par le manque d'eau. On écoute la ministre.
La quasi-totalité du territoire est désormais en situation de sécheresse. Début août, 65% du territoire est marqué par une sécheresse se produisant en moyenne une année sur 25. Le reste du territoire est marqué par une sécheresse quinquennale à décennale. Elle est également visible dans les cours d'eau. Les débits ont chuté rapidement sous l'effet des fortes chaleurs. Sur les petits cours d'eau, 43% d'entre eux, soit près de 1370 cours d'eau, présentent des ruptures d'écoulement et des assecs. C'est la situation la plus critique jamais observée à cette période, qui dépasse celle de la sécheresse de 2022. Toutes les régions sont concernées. Les situations les plus préoccupantes restent le long d'un axe allant de la Vendée à la région Grand Est, mais qui s'étendent désormais à la partie centrale du sud de la France.
Monique Barbu, ministre de la Transition écologique, et la sécheresse affecte fortement le monde agricole, Nawal.
Et oui, Inès, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, réunira le 27 août les préfets pour leur demander de faire un état des lieux territoire par territoire afin de calibrer un plan d'aide massif aux agriculteurs. Elle était invitée ce matin chez nos confrères de RTL.
Alors, avant toute chose, je voudrais dire à tous les agriculteurs ma compassion pour ce qu'ils vivaient, ma solidarité. Et je sais bien qu'à travers moi, ce sont tous les Français qui le disent. D'ailleurs, ils sont courageux, ils sont solidaires. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au moment des incendies. Ils ont fait partie de ceux qui nous ont protégés. Aujourd'hui, c'est à nous de les protéger. Ce qu'ils vivent, ce n'est pas une sécheresse de plus. C'est un épisode inédit aux conséquences très lourdes pour l'agriculture, en particulier pour le maraîchage, pour certaines céréales comme le maïs, évidemment pour l'élevage, moins de fourrage, moins de production de lait. Avec le Premier ministre, notre priorité immédiate, c'est d'épauler les agriculteurs dans cette épreuve pour protéger leurs revenus, leurs exploitations, leur capacité de production. C'est cette réalité qui nous guide dans chaque décision que l'on prend. Alors, pour ce qui est de l'évaluation, c'est un point effectivement très important. J'ai demandé à chaque préfet d'installer cet été un comité sécheresse. Et je vais les réunir dans quelques jours pour qu'ils me fassent un état des lieux précis qui nous permettra de calibrer le plan d'aide massif. Nous allons les réunir le 27 août. Je vais les réunir et leur demander de me faire un état des lieux, territoire par territoire, filière par filière.
Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Les incendies qui se sont déclenchés mercredi sur le littoral du Pas-de-Calais ne sont pas encore fixés. 230 pompiers sont actuellement mobilisés sur le terrain, selon la préfecture. Et le feu de forêt au sud de Rennes, près de Saint-Just, ne progresse plus à ce stade, après avoir brûlé 200 hectares, a annoncé ce matin la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Les syndicats des sapeurs-pompiers professionnels doivent être reçus ce midi, place Beauvau, par le ministre de l'Intérieur, où ils entendent rapporter la colère des soldats du feu qui demandent davantage de moyens et d'hommes en pleine saison des incendies. Dans l'actualité au Moyen-Orient maintenant, l'ambassadeur américain en Israël, pourtant fervent défenseur de la colonisation en Cisjordanie occupée, a dénoncé le siège de maisons palestiniennes par des colons comme un acte de terreur. Une prise de position assez inhabituelle, inagile.
Et oui, Mike Huckabee condamne fermement les violences d'un groupe de colons israéliens. Sur X, l'ambassadeur américain en Israël affirme que cet acte de terreur horrible visant à intimider et à harceler une famille palestinienne sont répugnantes, estimant qu'aucun prétexte ne justifiait ce comportement de voyou. C'est particulièrement inhabituel, vous l'avez dit Nawal, parce que ce pasteur évangélique chrétien a soutenu de façon répétée par le passé les colonies israéliennes en Cisjordanie. Il a aussi affiché son ferme rejet de voir un État palestinien voir le jour. Mais alors, pourquoi dénonce-t-il les violences des colons aujourd'hui? Revenons sur les événements des derniers jours. Depuis dimanche, quelques dizaines de colons bloquent l'accès des maisons palestiniennes dans le village de Kousra, près de Naplouse. Les habitants affirment être coupés de tout approvisionnement en nourriture et autres services essentiels. L'armée israélienne a dépêché mercredi des soldats qui ont démonté une tente, mais les colons sont restés sur les lieux avec des couvertures, selon des témoins. Ces actions, aussi violentes soient-elles, arrivent régulièrement en Cisjordanie. Mais voilà, l'une des maisons à Kousra appartient à un Palestinien également détenteur de la citoyenneté américaine. Cela a pu attirer l'attention de l'ambassadeur américain. On peut aussi voir cette nouvelle posture américaine dans un contexte géopolitique plus large. Il y a quelques jours, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rejeté le plan américain sur Gaza, un véritable camouflet pour Donald Trump. Cette sortie de l'ambassadeur américain pourrait être un début de riposte de la Maison Blanche.
Merci Inès Gilles pour toutes ces précisions. Et le Premier ministre libanais Nawaf Salam a condamné hier les destructions systématiques dans le sud du Liban, où Israël a dit démolir toutes les maisons dans le secteur contrôlé par son armée. Dans le reste de l'actualité internationale, en Ukraine, deux personnes ont été tuées dans une attaque de drones russes contre un train de passagers dans la région d'Odessa, dans le sud du pays. Et en Crimée, 5 personnes sont mortes dans une explosion après une attaque ukrainienne, selon les autorités locales. Le mois de juillet a été le plus meurtrier pour les civils en Ukraine depuis mai 2022, après 4 ans et demi d'invasion russe, selon un rapport publié par l'ONU. Et des tensions entre la Russie et le Japon. Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu pour la première fois ce jeudi dans les îles Kouriles, en Extrême-Orient. Une visite jugée absolument inacceptable par le Japon, qui revendique aussi cet archipel. Suite à cet acte, le Japon a annoncé avoir convoqué l'ambassadeur de Russie. Retour en France, à Paris, un campement dans l'enceinte et sur le parvis du SAMU social du 13e arrondissement, qui a rassemblé jusqu'à 450 sans-abri, dont de nombreuses familles, a été évacué ce matin sur arrêté préfectoral. Les occupants, principalement des personnes étrangères en situation régulière ou irrégulière, y sont installés depuis près d'un mois. La Fondation de l'Islam de France, organisme à vocation culturelle, s'est vue retirer son statut d'utilité publique par le ministère de l'Intérieur, selon un décret publié au Journal officiel. Dès février 2024, Khaled Bencher, le président de cette instance, avait alerté sur le risque de la voir disparaître par manque de financement. Et enfin, sur le football, le Paris Saint-Germain commence sa saison avec un nouveau trophée. Les Parisiens ont remporté hier leur deuxième Supercoupe d'Europe consécutive en battant Aston Villa de 2-1 à Salzbourg en Autriche. Kvaratskhelia et Désiré Doué ont inscrit les deux buts du club de la capitale. Et enfin, c'est une fin de parcours pour le Maroc et l'Algérie à la CAN féminine. Les Algériennes se sont inclinées 3-1 face au Malawi. Le Maroc, pays hôte, a été éliminé par le Cameroun au tir au but après un match nul. Le Malawi et le Cameroun s'affronteront donc en finale ce dimanche à Rabat. Et le Maroc et l'Algérie s'affronteront pour la troisième place de cette CAN féminine ce samedi. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.